Il est 8h, bienvenue à tous. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal présenté par David Decamp. Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Et à la une de l'actualité ce matin.
Bonne nouvelle, les patrons ont l'intention d'embaucher en 2019, mais trouveront-ils les bonnes personnes ? Recruter, c'est parfois la croix et la bannière. On vous parle d'emploi dès le début de ce journal. Le cavalier seul, Emmanuel Macron, s'oppose aux négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis, mais est-ce le signe d'un isolement du président français ? Elles auront bien lieu. Le pire naufrage depuis le Titanic, l'Estonia, engloutie en mer Baltique. Plus de 850 personnes étaient mortes, c'était en 1994. 25 ans plus tard, quelqu'un va peut-être payer. Un procès commence aujourd'hui.
8h12, on va parler de l'arrestation de Julian Assange pour Vincent Hervouet. C'est toute la puissance américaine. Et puis à 8h15, il vient de quitter Matignon pour se porter candidat aux européennes. C'est la première interview de l'ancien conseiller du Premier ministre. Gilles Boyer répond aux questions d'Audrey Crespo-Mara.
Europe 1.
Voilà une prévision qui donne envie d'espérer. L'enquête annuelle de Pôle emploi, les intentions d'embauche pour 2019 en forte hausse, presque plus 15%, cela représente près de 350 000 projets de recrutement supplémentaires. Bonjour Axel de Tarlet.
Bonjour.
On a spontanément envie de se réjouir, mais c'est toujours le même problème, j'ai envie de dire Axel. Les patrons anticipent de fortes difficultés pour trouver les bonnes personnes.
Oui, alors c'est vrai que ça peut paraître très paradoxal hein, dans un pays qui compte plus de 5 millions de chômeurs, car les emplois sont là, mais pas les candidats. Effectivement, vous avez 50% des patrons qui disent éprouver de fortes difficultés à embaucher. Et le phénomène s'aggrave. L'an dernier, ça n'était que 44%. Alors pourquoi ? Eh bien, l'explication est double. D'une part, les patrons recherchent des profils bien précis, des compétences spécifiques qu'ils ne trouvent pas. Alors ça, c'est tout le problème donc de la formation. Et puis d'autre part, côté employeur, on a aussi le manque de motivation des candidats pour des métiers jugés difficiles, jugés pénibles, avec des horaires décalés. Et ça, c'est toute la question du travail qui ne paye pas ou pas assez. Et donc malheureusement, oui, nombre de ces offres d'emploi, 2 700 000, ne trouveront pas preneur. C'est là un frein évident à l'économie française.
Axel de Tarlet pour Europe 1. Merci à vous Axel.
Voici maintenant une initiative qui est faite d'une pierre deux coups.
Mais oui, cela se passe à Marseille. Un bâtiment public a été retapé pour pouvoir accueillir à la fois des sans-abri, mais aussi une quarantaine de start-up. Un seul endroit pour créer de l'activité économique et pour sortir les gens de la rue. Cela s'appelle Coco Velten. Reportage Nathalie Chevance.
C'est un bâtiment de 4000 mètres carrés, propriété de l'État, réhabilité et qui désormais ressemble à une fourmilière. À la cantine au rez-de-chaussée se croisent des entrepreneurs, des artistes, mais aussi des SDF comme Yacine. Il paie 50 centimes par jour pour une chambre qu'il loue dans les étages. Il a sa clé, sa boîte aux lettres, rien à voir avec une structure d'urgence.
En fait, c'est comme une résidence. Je suis dans une grande maison. Ma chambre, elle est géante, quoi. J'ai un frigo, j'ai un placard où je peux garder mes affaires dedans, tranquille. Soulager, c'est d'avoir une expérience de vie, une famille, ouais. Je peux m'avancer dans ma vie, quoi.
Et l'émulation, il la trouve dans cet univers de coworking, d'échange avec le monde du travail. Une quarantaine de structures louent des bureaux à petit prix, 10 euros le mètre carré. Aurore travaille sur le changement climatique, séduite par le lieu, l'expérimentation.
Une niche foisonnante de structures de tout horizon, de pouvoir créer des liens, le tout sous le même toit et justement d'ouvrir notre monde à un public qu'on ne côtoie pas nécessairement, quoi.
Le monde de la rue ?
Oui, tout à fait, oui. C'est un lieu de vie plus qu'un lieu de travail.
Un bail pour 3 ans de cohabitation entre entreprises et SDF dans ce bâtiment ouvert au public qui sera ensuite revendu pour d'autres projets. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et le gouvernement souhaite attirer la lumière sur cette initiative. Le Premier ministre Édouard Philippe se rendra sur place aujourd'hui.
Le cavalier seul d'Emmanuel Macron.
Oui, il y a d'abord eu cette position minoritaire sur le délai du Brexit. Et maintenant, le chef de l'État prend le contre-pied de la Commission européenne. Il dit non à l'ouverture de négociations commerciales avec les États-Unis. Pour lui, un pays qui a quitté l'accord de Paris sur le climat ne peut pas être considéré comme un partenaire de confiance. Avec nous, la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, Isabelle Horry. Tout cela, Isabelle, risque de donner le sentiment d'un isolement d'Emmanuel Macron sur la scène européenne ?
Et oui, car la France seule n'a pas le pouvoir de bloquer les négociations. C'est un vote à la majorité des 27. Emmanuel Macron a beau plaider que l'Europe doit être exemplaire pour le climat et qu'elle doit faire entendre sa voix. Ses partenaires, eux, ont décidé de faire la sourde oreille. Alors ça fait des mois que ce dossier est dans les tuyaux. C'était une des conditions après l'armistice commercial conclu l'été dernier entre Donald Trump et le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Beaucoup de pays européens ont peur de représailles américaines si les choses n'avancent pas. On sait, Berlin s'inquiète pour ses voitures, mais il y a aussi d'autres menaces venues venu de Washington, Donald Trump a lâché une salve de tweets qui vise Airbus, par exemple. Ceux qui veulent ces discussions pointent que la France a quand même obtenu des garanties sur l'environnement et que l'agriculture ne fera pas partie des négociations. Certains diplomates européens accusent Paris de faire de la politique intérieure à quelques semaines des élections européennes, argument balayé par l'Élysée. Parfois, en Europe, il faut assumer le rôle de vigie, dit-on dans l'entourage du président.
Isabelle Horry, la correspondante à Bruxelles d'Europe 1. Merci Isabelle.
Plus de 850 personnes avaient disparu dans les eaux noires et glaciales de la Baltique.
Oui, vous parlez du naufrage de l'Estonia il y a 25 ans. Depuis, les familles essaient d'obtenir réparation et ce jour est peut-être venu. Un millier d'ayants droit et de survivants réclament 40 millions d'euros d'indemnité au constructeur allemand du ferry, mais aussi à une entreprise française, Bureau Veritas, qui avait certifié ce navire. C'est le tribunal de Nanterre qui en jugera à partir d'aujourd'hui. Jean-Gabriel Bourgeois.
L'Estonia, c'est la fierté de la toute jeune République balte. Comme tous les jours, le ferry quitte le port de Tallinn ce 27 septembre 1994. Mais en pleine nuit, à 1h22, l'équipage lance son premier SOS.
This is Estonia. Mayday.
Le bateau tangue et se retourne très rapidement. Plus de 700 personnes sont prises au piège. Les autres se jettent dans l'eau glaciale. En moins d'une demi-heure, le mastodonte de 150 mètres de long disparaît des radars. L'Estonia a sombré dans la Baltique. Des tonnes d'eau se sont engouffrées par l'avant, parce qu'on appelle l'étrave rabattable, une porte qui s'avérera défectueuse. Pour maître Maxime Cordier, qui défend les victimes, le bureau Veritas, chargé de contrôler les équipements, était forcément au courant.
Ils ont même fait un contrôle en cale sèche 3 mois avant le drame, on aurait dû s'apercevoir qu'il y avait un problème. Après le naufrage, l'intégralité de la flotte des étraves rabattables ont été soudées. Donc c'est bien que le bureau Veritas a reconnu qu'il y avait un problème d'étanchéité de cette étrave rabattable.
Aujourd'hui, le bateau repose toujours à 85 mètres de profondeur dans les eaux de la Baltique, une zone sanctuarisée dont l'exploration a été interdite par les autorités scandinaves.
Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1.
La suite du journal avec David Doucan et la mobilisation du peuple soudanais qui a entraîné la chute d'Omar al-Bashir.
Oui, le dictateur a été renversé, mais par l'armée. Les généraux s'installent au pouvoir pour une période de transition de 2 ans, disent-ils. Le peuple n'en veut pas et poursuit sa mobilisation. Jean-Sébastien Soldaï.
Des chants qui résonnent comme un pied de nez devant le quartier général de l'armée. Paix, justice, liberté, scandent ces Soudanais qui ont choisi de braver le couvre-feu imposé par les militaires dès leur prise du pouvoir. Nous n'avons pas peur, confie mardi un jeune manifestant. Certains soldats sont parmi nous et ont promis de nous défendre.
Nous sommes nés sous le règne de Bachir et nous n'avons connu que lui à la tête de ce pays. Donc tout le monde est heureux de s'être débarrassé de lui. Mais en même temps, nous sommes en colère. Car l'armée nous fait un sale coup. Ceux qui ont pris les commandes sont les mêmes bandits issus de ce même régime sanguinaire et ils vont essayer d'empêcher cette révolution. Mais les manifestants restent malgré le couvre-feu. Ils sont même plus nombreux, car on ne veut pas de 2 ans sous l'emprise de l'armée.
La crainte d'un provisoire qui dure, celle de voir un général s'installer pour longtemps à la tête du pays comme en Égypte, méfiance partagée par l'ONG Human Rights Watch qui veut une transition rapide et un déferlement de l'ancien président devant la Cour pénale internationale. Problème, personne ne sait exactement où se trouve Omar el-Béchir.
Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1. Et maintenant, Nico.
Exceptionnelle.
Une séquence exceptionnelle parce que vous le savez, ce dimanche, c'est le Paris-Roubaix, la plus belle des courses cyclistes avec la fameuse trouée d'Arenberg. Il faut se rendre compte ce que c'est de faire du vélo à 50 km/h sur des pavés parfois glissants. Et cela, nous voulions sur Europe 1 que vous vous en rendiez compte. Alors l'ami Jean-Jacques Herry n'a pas hésité une seconde. Il a pris tous les risques et il a testé pour vous l'enfer du Nord.
À gauche, à droite de la forêt, devant moi, 2 km de pavés luisants. Visant et menaçant, et puis à moi, sur un vélo. Allez, j'y vais. La première sensation, c'est que ça fait mal au bras, ça secoue aussi en fait toutes les parties du corps, depuis le guidon jusqu'au haut de la tête. Ce qu'il faut, c'est prendre un peu de vitesse pour essayer de se faire secouer le moins possible. Il faut aussi rouler au milieu, c'est là que les pavés sont peut-être le moins disjoint, mais là encore, faut réussir à rester au milieu. Ça secoue. Et ça glisse, même si ça a été nettoyé, quand même un peu de boue.
Bon, je me suis senti plutôt à l'aise. Hein. Je vais aller briefer ma course avec Thierry Gouvenou. C'est le directeur du Paris-Roubaix.
J'ai un style plutôt aérien, non ?
Ouais, oh là là, il va falloir se détendre, hein. Faut se relâcher. respirer un bon coup et puis on y va. Il faut surtout s'imposer, dominer le pavé.
Bref, il y a encore du boulot quoi.
Ouais, il y a du boulot et la course va arriver vite d'ici dimanche. Ouais.
Mon Paris-Roubaix, mon enfer du Nord à moi, n'aura donc duré que 2 km sur les pavés. Mais au moins, je suis pas tombé.
Il n'est pas tombé, Jean-Jacques. Il n'est pas tombé, Jean-Jacques Herry. Bravo.
Sous les pavés, le courage. Oui, et l'effort.
Bravo à lui.